Bonjour, ceci est un enregistrement de la session du 19 décembre où l'équipe du MOOD, avec les étudiants du Master 2 Digital Media et Cinéma, recevait, sur le thème de l'information disruptée, Clara Schmelk de la revue Medium et Giuseppe De Martino, cofondateur de Loopsider.
Bonjour à tous, bienvenue dans la troisième session du MOOD 2018. On est aujourd'hui avec les étudiants du Master Digital Media et Cinéma. Et on accueille Giuseppe Martino et Clara Doineich-Melk. On a Frédéric Guarino en direct de Montréal. Hello Frédéric.
Bonjour.
C'est de la radio, on a besoin de t'entendre.
Voilà, et Alexandre Michelin et moi-même. Et nous sommes toujours dans les locaux de l'Immersion Center du BCG. Je vais laisser la parole à nos deux intervenants aujourd'hui pour vous présenter. Et puis ensuite, on lancera le débat. Où on va tenter aujourd'hui de comprendre la disruption dans le domaine des news et de l'information.
Je pense que l'objet de votre présentation, c'est aussi de me dire qu'est-ce que c'est pour vous le moment où vous avez eu l'impression dans votre carrière ou dans votre job qu'il y avait une disruption de l'info. Ça permettra aussi de lancer le débat par la suite. Et je reprendrai la parole et Frédéric fera aussi un honneur à Clara. Frédéric fera aussi un point sur ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique.
Alors bonjour, je m'appelle Clara Schmelk, je suis journaliste, philosophe des médias, je travaille notamment chez Medium avec Régis Debray, une revue de philosophie, de médiologie, on dit, qui en fait essaye d'analyser les phénomènes philosophiques de l'espace médiatique, des échanges et de la disruption aussi, sous un angle moins techno et un peu plus philosophique. Et je prépare un livre aux éditions du CNRS sur démocratie et médias sociaux qui est assez bouillant étant donné les événements récents des Gilets jaunes et de la place que Facebook a pu occuper dans l'évolution de ces manifestations sur plus d'un mois.
Giuseppe.
Bonjour, donc Giuseppe. Et, aujourd'hui, je m'occupe de Loopsider. On a lancé un média en ligne, un média en vidéo sur les plateformes. On a 11 mois. Et 11 mois, par rapport à nos carrières respectives, hein, les différents associés, c'est la première fois qu'on voit un tel succès en si peu de temps. C'est-à-dire qu'on n'est pas loin de 60 millions de vues rien que sur Facebook, on a à peu près 20 millions de vues sur Instagram, un peu plus sur Snap, et on est très surpris même par notre succès. Et c'est un peu de cela que j'aimerais parler aujourd'hui à l'invitation d'Alexandre, Jérôme.
Merci à vous deux d'avoir accepté de participer à ce débat. On a choisi ce thème parce qu'on pense qu'en 2018, notamment en France, on a vu une vraie implosion de l'information, de notion d'information. Ça fait longtemps qu'avec Frédéric et Laurent on en parle, d'abord sous effectivement cet angle techno et média qui est la marque du MOOD, mais aussi en se posant des questions un peu plus politiques ou que c'est que l'info dans un contexte comme celui-là. Et en 2018, entre la crise des Gilets jaunes auxquels tu faisais allusion et les multiples rebondissements des affaires liées à l'information sur les réseaux sociaux, à la transformation totale des médias, on se rend compte que ce thème est en fait est pratiquement le thème central pratiquement de la démocratie et que ça participe à une remise en cause et du métier de journaliste, et de ce que c'est que l'information, et des outils d'information. Et c'est vrai pour la France, et c'est particulièrement vrai aussi pour l'Europe. Avec Frédéric, qui regarde ça depuis l'autre côté de l'Atlantique, il y a encore des dimensions plus puissantes.
Oui, en rebond à ce que tu viens de dire, on a, je pense, en 2018, compris à quel point les médias sont consubstantiels de la démocratie, et à quel point l'atomisation des médias, la verticalisation des médias, ça vient créer des soubresauts démocratiques des deux côtés de l'Atlantique. Et c'est un thème hyper riche, donc j'ai hâte d'entendre les questions des étudiants.
Alors pour commencer, on va laisser les étudiants vous mettre sur le grill, et puis je ferai passer le micro et prenez le temps de répondre aux questions. Qui veut commencer?
Parce que j'ai le... Bonjour, je m'appelle Adrien. Je pense que la disruption de l'information, ça a d'abord été une disruption des modèles économiques permise par le numérique. Aujourd'hui, Quels sont les modèles économiques qui sont encore viables et quels sont ceux qui ne le sont plus? Je pense notamment à l'abonnement qui a de moins en moins le vent en poupe, mais on voit toujours des gens qui résistent. Est-ce que ça peut toujours marcher aujourd'hui, hein, une information à l'abonnement?
Alors, j'ai l'impression que vous avez été un peu échaudé par les expériences de médias indépendants en 2018, comme Vraiment ou l'Hebdo, qui vous font dire que le modèle de l'abonnement, explicite aussi, mais qui marche explicite quand même, à peu près, qui est toujours là. Et surtout, parce que ce sont des hebdos qui étaient papiers, qui pariaient sur l'abonnement et non sur moins sur la publicité. Et ça n'a pas été poursuivi. Est-ce que c'est à dire que le modèle de l'abonnement est en chute? Pas forcément, parce que regardez Le Monde ou le New York Times, ce sont des journaux qui tiennent quand même beaucoup à l'abonnement. Je pense que simplement, c'est peut-être que le news magazine, c'est plutôt ce format de news magazine qui met en difficulté.
J'ajouterais que par rapport au secteur naturellement régulé, comme la radio, la télévision, on a besoin d'une licence, un cahier des charges, la ressource est rare, donc on a besoin d'autorisation. Sur nos secteurs hein, du numérique, n'importe qui peut se lancer. Donc, bien évidemment, il y a plein de bébés tortues qui éclosent et il n'y en a pas beaucoup qui atteignent l'océan. Et les bébés tortues ont le choix de choisir l'abonnement, la publicité, le donate button. Hein, ce que fait le Guardian est remarquable.
Le comment, pardon?
Le donate button. Le fait
le financement par les lecteurs.
Par au choix du lecteur Donate. sur le don. Le mouton de don. On pourrait appeler ça le mouton de don, mais ça
en français, c'est moins drôle.
Ouais.
Le plateau libre.
Ouais, voilà. Donc, il faut exclure aucune possibilité. L'essentiel, c'est d'atteindre l'océan.
Il y a aussi, on a parlé de l'abonnement, mais il y a aussi l'achat par article individuel. Est-ce que vous pensez que c'est un modèle viable? Est-ce qu'on va le voir de plus en plus ou pas?
Alors, sur un plan personnel, c'est quelque chose que je fais beaucoup. J'achète énormément d'articles. Dès lors que j'ai un besoin en termes de recherche de pouvoir consulter des articles comme à haute valeur ajoutée et très précis. Donc, en fait, plus il va y avoir des articles scientifiquement très sourcés et de haute qualité, plus, je pense, les lecteurs seront prêts à mettre 2 euros dedans, parce qu'étant donné qu'ils vont voir en fait le travail qu'il y a derrière, et ils seront prêts et ils diront bah, ça vaut largement 2 euros l'article lui-même. Donc je pense qu'en fait le lecteur peut être mobilisé et dire tiens, il faut que je paye, parce qu'il va reconnaître en face de lui le travail. Et pour qu'il reconnaisse ce travail, il faut qu'il soit lui-même en situation d'être intéressé par la recherche, de lui-même travailler sur un sujet. Donc je pense que ce modèle de l'article à l'achat, ça marche.
Ça pour la recherche.
Ouais, pour la recherche, et ça s'adresse à des gens qui sont vraiment en quelque sorte sensibilisés à la reconnaissance de l'effort.
Et il ne faut pas oublier que l'élément fort de l'abonnement au démarrage, c'était les journaux financiers. Pareil, parce que là, ouais. Il y avait une valorisation, c'est Wall Street Journal, Financial Times qui ont vendu le marché, et qui continuent aussi à marcher avec le paiement à l'acte. Parce que là aussi, c'est à la fois une information, mais c'est aussi un outil de travail d'avoir l'information. Dès que c'est plus généraliste, en gros, ce que tu dis, c'est que ça a beaucoup moins de valeur parce que l'info, on peut la retrouver partout.
Ça n'a pas beaucoup moins de valeur, mais disons que là, on reconnaît très facilement la haute valeur ajoutée sur le sujet qui nous intéresse, par exemple, Mind ou Stratégie. C'est des informations pointues, spécialistes, professionnelles. Et donc là, on se dit, oui, bah là, c'est donc, pas retrouver ça sur Twitter, n'importe comment.
En business to business, il y a aussi des choses.
Et puisque tu évoques le paiement par le end user, hein, ces diverses modalités, paiement à l'acte ou abonnement, rentrons aussi dans le détail de la publicité. Hein. La publicité, on peut évidemment évoquer l'ad break tel qu'on le connaît, mais il y a aussi le display, hein, la bannière qui ne vient pas forcément au sein de l'information qui te concerne, qui t'intéresse. Et aussi hein, ce qu'on fait modestement chez Loopsider, à savoir le contenu de marque, le brand content, là aussi un terme assez polysémique, qui peut aussi aller jusqu'à la marque blanche. Donc, il y a quand même, à travers la publicité, beaucoup de voies qui sont tracées.
Une question?
Bonjour, je m'appelle Johanna. Je me demandais comment vous faites pour garder une intégrité journalistique quand vous avez du brain content avec une marque qui est quand même partenaire du sujet et qui peut-être a un droit de regard sur ce que vous dites.
Alors pour nous, c'est hyper clair dans le sens où chaque contenu brandé qu'on met en ligne a vocation à être mis en ligne seul. C'est des contenus qui plaisent à notre communauté, qu'on a construit avec nos outils de storytelling à nous. Et le fait qu'une marque, au final, décide d'apposer son logo, d'indiquer que ça a été powered par ses soins, ne change pas à notre façon de penser, d'écrire, de distribuer et au final de contenter notre communauté. Donc pour nous, ça n'a aucune incidence, à la différence de la marque blanche, où là, c'est notre même savoir-faire journalistique, nos mêmes
outils
de curation.
C'est quoi la marque blanche ?
La marque blanche, c'est un contenu qui est produit
par l'Obsider,
oui, mais qui ne sera pas distribué sur nos pages. D'accord. Et qui ne sera pas logotypé par l'Obsider. Un exemple, personne ne sait dans cette salle, je pense, que cette fameuse vidéo qui a tant buzzé du SIG sur la nécessité de voter aux élections européennes.
Le SIG, c'est le service d'information du gouvernement qui a commandé une campagne à l'Obsider.
Et on a fait cette vidéo qui a été la plus vue pour une vidéo faite financée par le gouvernement de par les images de Salvini, d'Orban, une vision assez, j'allais dire, si j'osais, extrémiste de l'immigration. Ça n'a pas été fait selon les critères éditoriaux de l'Obsider. C'était une œuvre de commande, mais donc une marque blanche. Et en dehors de cette salle, encore une fois, ça n'a pas vocation.
Est-ce que c'est une information publique ? On peut la...
Ah, bien sûr.
D'accord.
Bien sûr.
C'est su.
Tout le petit monde, là, on a travaillé avec une agence de com et on a mis à disposition, encore une fois, notre écriture, notre savoir-faire en termes de recherche d'images, de rythme, de fluidifié,
de format.
Fluidité, de format, ce que ne sait pas forcément faire une agence de com. Mais c'est aussi ça, j'allais dire, si j'osais, hein, en n'étant pas journaliste et travaillant depuis 30 ans avec des journalistes, c'est tirer vers le haut cette population de journalistes en disant il n'y a pas 50 000 choix où on essaye de gagner notre vie en essayant plein de choses sans se prostituer, sans signer et des ménages, mais essayer de montrer à quel point journaliste, c'est une fierté, c'est un honneur, c'est un savoir-faire. Et ce savoir-faire, on a le droit de le mettre au service d'autrui.
Donc, on reste intègre. Donc, ce n'est pas parce que tu as fait une pub pour le SIG que tu passes ton temps à dire que ce que fait le gouvernement est bien.
Exactement. On n'aurait jamais fait cette vidéo avec le logo Loopsider, comme on refuse, hein, sans citer de nom. On a fait une vidéo qui a cartonné il y a quelques temps sur les mines de cobalt. Comment les enfants étaient exploités en Afrique dans les mines de cobalt. Deux jours après, on a un exploitant de mines dans ces pays qui nous demande de faire la vidéo inverse sans figurer. Donc, ce n'était même pas de la marque blanche, c'était une vidéo Loopsider brandée, mais en marque grise en quelque sorte, en disant à quel point les enfants quand même avaient la chance dans ces mines d'avoir une éducation, d'avoir un salaire complètement horrible pour nous et évidemment on a refusé. On a des grands cigarettiers, plusieurs, c'est assez étonnant, qui nous ont approchés en nous demandant est-ce qu'on serait prêt à faire des vidéos en marque grise, donc sans que leur marque apparaisse, pour dire qu'en fait le tabac n'était pas forcément si mauvais et qu'il y avait plein de façons d'attraper le cancer et pas forcément en fumant. Évidemment, on ne peut pas accepter, mais c'est vraiment le risque aussi d'être, j'allais dire, en relation avec le public, avoir ce rôle, hein, de faire passer des messages et on, cette influence qu'on a envie aussi de porter. Juste un petit mot, pourquoi on a voulu faire l'Obsider ? Parce qu'on a pensé que sur les réseaux sociaux, par l'image, il y avait des messages à diffuser, il y avait une possibilité de tirer vers le haut ces nouvelles générations qui s'informent via leur communauté et qu'elles n'étaient pas condamnées à regarder les dernières nouvelles concernant Rihanna ou des chats sur des skateboards.
Comment tu réagis, Clara, en tant que philosophe, sur cette nouvelle forme d'intégrité ?
Bah, je trouve qu'il a raison, parce que c'est une sorte de pragmatisme. Être complètement dogmatique en opposant journalisme et production qui est liée aux marques, c'est quand même un peu... c'est pas forcément très constructif, parce que de toute façon, ça inciterait aussi les marques à être en froid et en froid et retourner contre les médias, à créer peut-être des choses sans aucune question, sans aucun questionnement d'intégrité, justement, alors qu'en fait, justement, ce travail un peu parfois en commun, sans pourtant qu'il y ait des mélanges de genres, force et médias et marques, implique que médias et marques aussi se remettent en question en permanence.
Autre question.
Bonjour, moi c'est Com. Et je me demandais par rapport à la place qu'occupe avec cette disruption des médias, les nouveaux médias comme Facebook et tous ces médias sociaux, est-ce que ça change par rapport à la télé et à la radio qui étaient plus des médias d'infos chaudes auparavant et qui sont maintenant sur des informations qui sont moins chaudes, vues par les gens déjà sur les réseaux sociaux généralement. Comment ils se placent par rapport à une nouvelle posture sur l'apport d'informations?
La journaliste. Et la philosophe.
On voit quand même un gouvernement qui donne en quelque sorte des facilités aux chaînes d'information avec des nouvelles toutes les 5 secondes, j'annule. Donc ça, c'est des cadeaux pour les chaînes d'info, hein, pour en continu. Je pense pas que les chaînes d'info, même celles qui ne sont pas toujours en continu, soient mises en difficulté par les réseaux sociaux dans la mesure où elles interagissent en permanence avec elles. Regardez, tous les journaux télévisés sont commentés sur Twitter. Toutes les émissions, tous les hashtags, en fait, beaucoup de hashtags correspondent aux émissions de télévision, aux moments de télévision qui servent encore de référence temporelle, comme s'il y avait une sorte de bande passante qui n'était celle des réseaux sociaux. Le temps des réseaux sociaux n'est pas un temps abstrait, un temps qui se surimposerait par-dessus le temps de la télé, mais c'est quand même en référence au temps de la télévision qui n'a pas disparu, à mon sens.
Donc la télé, en fait, continue à être le centre du système.
Oui. En fait, j'ai l'impression vraiment en analysant les tweets, contrairement à ce qu'on pourrait penser, que les usages se télescopent et que la télé reste la bande de fond.
C'est-à-dire que c'est la bande de fond sur laquelle on rebondit.
Sur laquelle on rebondit, qu'on commente, qu'on critique énormément, tout en citant, et dont on va remettre en cause les légitimités aussi, par exemple, comme ça a été le cas avec les erreurs qui ont pu être faites sur des chaînes publiques.
Mais moi, je regardais un certain nombre de chaînes de Facebook, des groupes de Facebook qui étaient en direct. On n'avait pas du tout l'impression que la télé avait la moindre importance. Ceux qui étaient dans leur groupe étaient dans leur groupe. Les autres étaient en direct à regarder Loopsider ou son principal concurrent qui était en direct dans les manifs. Est-ce qu'il n'y a pas finalement un peu les journalistes traditionnels qui ont l'impression que tout le monde les regarde et puis l'autre monde qui s'autonomise et qui ne les regarde
Alors,
pas
Ils s'autonomisent, mais ils font un peu semblant de ne pas les regarder. Parce qu'ils sont quand même, ils sont souvent comme en opposition quant aux chaînes télé. Ils disent, regardez, on est autonome, on fait nous-mêmes notre propre live, mais tout en copiant en fait les méthodes des télévisions et tout en s'en inspirant. Et à mon avis, ils suivent aussi les télés, même s'ils s'en démarquent.
Qu'est-ce qu'il y a de différent entre Loopsider et BFM TV?
En tous les cas, juste pour rebondir sur ce que dit Clara et qui est à mon sens tout à fait vrai, récemment on a été approché par Snapchat aux US qui nous a demandé pour eux de produire un show. On a dit, écoutez, on est très flatté que vous nous identifiez, que vous nous demandiez de travailler avec vous, mais pour vous c'est quoi un show? Et en fait, dans leur esprit, c'était quelque part une émission courte de télévision. Et c'est ce qu'on fait avec grand plaisir, avec une certaine réussite, où Snapchat les met en ligne chaque samedi matin pour Loopsider, ça s'appelle Hello World. Et on fait environ 2 millions de visiteurs uniques sur une petite émission dans la matinée qui dure 5 minutes. Donc, j'allais dire, la boucle est bouclée et aussi par... Ce qu'on n'a pas évoqué aussi, c'est la génération. Nous avec les données que nous donnent ces plateformes, on se rend vraiment compte qu'il y a vraiment des familles. Snapchat, c'est 13-17, Instagram, 17-25, et Facebook, il y a 25 millions de Français chaque jour, c'est 25 et plus. La télé est toujours importante dans le sens où c'est toujours allumé, ça fait de l'image, du bruit dans un côté, et c'est un support, notamment sur Twitter, pour l'énervement, le troll ou le simple commentaire, alors que sur les autres réseaux, on se rend vraiment compte, dans le sens d'Alexandre, qu'il y a une autonomie du traitement, qu'il y a une vie dans les groupes et que l'influence des médias traditionnels est peut-être un peu moins.
Donc, tu parlais des datas. Est-ce que tu peux expliquer comment vous fabriquez l'information sur Loopsider, comment vous faites vos choix? Et quel rôle jouent les data?
Alors, nous, on dit toujours, hein, on est trois associés, Arnaud, que Alexandre connaît bien, qui est un ancien d'AOL, de MSN, de Discovery, qui gérait le digital de Discovery. Moi-même, qui me suis occupé notamment de Dailymotion ces 10 dernières années, et Johan Huffnagel, qui était le patron des rédactions de Libération. Et qui, c'est lui qui, au départ, est plus enclin à regarder les contenus animés la rédaction. Mais pour le taquiner, et un peu plus que pour le taquiner, on dit toujours qu'en fait, on a deux rédacteurs en chef. On a Johan Huffnagel et on a la data. La data a cet avantage de nous permettre de répéter par analyse de chacune de nos vidéos ce qui fonctionne, hein, de trouver le vrai storytelling dans la promesse, les deux premières secondes, hein, pour attirer l'attention, pour toujours aller vers un climax le plus important et aboutir à la révélation finale. On n'est pas loin des screenwriters, hein, des guildes scénaristes qui font le succès d'Hollywood.
Donc il y a un format.
Dans ce format qui est différent pour chaque plateforme, on produit différemment pour chaque plateforme.
Pour Snapchat, le même Snapchat, sujet. Pour Twitter.
Pour Instagram. Pour
Facebook, Instagram.
Et pour Twitter.
Pas pour YouTube.
Alors, YouTube, moi venant de Dailymotion, on a une vraie difficulté aujourd'hui avec YouTube du fait de l'opacité de l'algorithme. On n'a aucune certitude sur la façon dont on peut sortir de cet océan d'images qu'est YouTube. Donc, on a préféré, on n'a même pas un an, les 6 premiers mois, on s'est concentré sur Facebook et par cercle concentrique, les communautés nous ont permis d'atteindre à peu près plus de 600 000 personnes qui nous suivent et donc 60 millions de vidéos vues par mois. À la rentrée, on s'est dit bah, Instagram, c'est le moment. Snapchat, c'est aussi. Et quand ils sont venus nous chercher, c'est parce qu'on avait commencé à faire des premières vidéos avec eux. Et l'année prochaine, vraisemblablement, il faudra casser l'algorithme de YouTube, qui encore une fois n'est pas un réseau social, qui est un distributeur d'images, et savoir, essayer de comprendre avec les outils compliqués qu'on peut avoir à disposition sur YouTube, comment émerger. Et ça, c'est pas facile.
Frédéric, tu as une question de l'autre côté de l'Atlantique?
Oui, une question, un commentaire. On a vu en 2018 le lancement du podcast du New York Times, The Daily, qui est devenu le premier podcast d'information aux États-Unis. C'est très intéressant parce que ça montre que dans le monde flat dans lequel on vit, il n'y a plus de silos. Un journal papier, maintenant numérique, devient une radio. Les télés font de plus en plus d'écrits et inversement. Je voulais vous poser la question à tous les deux, comment vous voyez ça dans le contexte français où les silos, ça veut dire encore quelque chose? Combien de temps ça va tenir? Est-ce qu'on a ici, en Amérique du Nord, 1, 2, 3 ans d'avance?
Alors, sans vouloir faire trop de plans sur la comète, on a aussi l'impression, comme en France, que les silos sont en train de disparaître, d'être de plus en plus évanescents. On voit la radio filmée, la télé qui se met à faire des textes écrits. Cela étant, je pense que les médias peuvent aussi se réaffirmer dans leur identité propre. Et par exemple, l'écrit à travers des formats beaucoup plus longs, beaucoup plus littéraires, se réaffirmer comme presse écrite. La radio aussi, avec les effets sonores. Il y a une ambiance différente quand même en radio qu'en télévision. La télévision qui est en train de se reconstruire aussi, notamment sous l'effet de formats vidéo qui ne sont plus de la télévision.
Qui parfois viennent de la télé. Hein. Toute une partie de l'équipe de Brut et de l'ancienne équipe de Canal.
Qui viennent de la télé, mais qui s'en sont détachés et qui sont maintenant complètement autonomes dans leur manière de concevoir des formats. Des formats aussi de live ou de groupe Facebook qui ne sont pas travaillés pour l'instant, qui sont encore très spontanés et qui s'inscrivent contre la télévision, mais qui pourraient avoir une identité propre dans quelques années peut-être, et qui ne soient ni du style Brut ou Loopsider, mais qui soient vraiment complètement autre chose qu'on n'arrive pas encore à matérialiser aujourd'hui. Et je pense que quand même qu'il peut y avoir une restauration en quelque sorte de l'identité de chaque média.
Alors, tout d'abord, comme souvent, les États-Unis sont un modèle. Nous, on a lancé Loopsider parce que, avec nos différentes précédentes casquettes, on a vu 2013, 2014, 2015 émerger ce nouveau moyen d'informer sur les réseaux sociaux, des acteurs comme Naudis ou AJ Plus, avec lesquels on avait des accords, que ce soit Arnaud chez Discovery, Johan en tant que Libération, ou moi Dailymotion, et on était complètement en admiration avec ce qu'ils arrivaient à faire, et on s'est dit, il n'y a aucune raison de ne pas pouvoir développer des services identiques en Europe, alors qu'en Europe, avant notre arrivée, l'image, la vidéo était réservée plutôt à l'infotainment, à la dérision au sens large ou à des choses pas forcément inspirantes. Ça, c'est donc l'Amérique continue à nous faire rêver et à tracer une certaine voie. Par rapport aux autres médias, moi, je suis toujours un petit peu gêné de voir qu'on paye une redevance, on paye des impôts et que France Télévisions aujourd'hui n'est pas capable en son sein de développer des services aussi en phase avec ce qu'attendent ces nouvelles communautés, ces nouvelles générations. Et je ne comprends pas, je dis ça presque en souriant, pourquoi France Télévisions paye un minimum garanti à Brut pour que Brut fournisse des vidéos, alors que c'est le devoir de France Télévisions de se projeter dans l'avenir et développer en interne ce savoir-faire.
On a vu effectivement des grandes chaînes, notamment en Angleterre, se lancer dans des stratégies très brillantes de short, notre Channel 4 ou BBC. Donc c'est vrai qu'on peut se poser la question.
Du coup, je ne sais pas trop si c'est un rapport, mais on parlait de France Télé. Ils ont une audience qui est particulièrement vieille, contrairement à vous, si je ne me trompe pas. Et justement, ça, ce n'est pas à double tranchant d'avoir un public très jeune. Est-ce que vos détracteurs, ça peut être un argument pour vos détracteurs, un argument peut-être pour les certaines marques qui seraient réticentes, ça a déjà été le cas?
Franchement, le jeunisme ambiant fait qu'avoir des communautés qui nous suivent et qui sont fans, hein. Nous, la notion la plus importante pour nous, c'est évidemment l'audience, mais d'abord, avant l'audience, c'est ce qu'on appelle l'engagement, hein. C'est la somme des likes, des partages et des commentaires. Et on a pu démontrer avec des chiffres objectifs, aussi bien de CrowdTangle, de Tubular Labs, les instituts qui font foi, qu'on est largement au-dessus. Et pourquoi? Par, encore une fois, le côté inspirant des angles, des histoires qu'on raconte. Donc, là aussi, il faut toujours avoir foi en l'avenir, en l'humanité. Si les histoires sont bonnes, les gens regarderont. Et par rapport à ce que vous indiquez, il y a un chiffre qu'on ne dit pas forcément, on dit France Télévisions, c'est vieillissant. L'émission la plus soi-disant, que j'adore, et c'est des gens super qui la font, hype de la télé, le quotidien, vous avez une idée un peu de la moyenne d'âge du public du quotidien en direct, hein. C'est 47 ans. Hein, 47 ans, le quotidien, soi-disant, l'émission
mais
des
c'est
jeunes.
Parce que la télé est très, un vieux média.
Exactement.
Voilà. La France est un vieux pays.
Ouais. Il y a comme 25% de plus de 25% de plus de 65 ans en France.
Est-ce qu'un journal comme Le Monde, par exemple, aurait intérêt à utiliser tous les canaux, à être partout pour vous, c'est-à-dire à essayer de dire, moi, Le Monde, j'écris, mais en fait, je devrais faire du podcast, je devrais faire des émissions, je devrais faire des programmes courts?
Alors là, je dirais plutôt oui pour Le Monde, parce que c'est devenu une telle référence, c'est un peu comme le New York Times.
Ouais.
C'est un tel, c'est plus qu'un journal écrit. C'est Le Monde, c'est
une marque.
C'est une marque. Donc c'est pour ça que je serais plutôt d'avis de dire oui, il faut que Le Monde se déploie sous divers formats, comme une sorte de, comme l'eau en fait se déploie sous diverses formes, de la neige, de la glace, tout ce que vous voulez, pour être là sur toutes les saisons.
En même temps, on parlait de déontologie tout à l'heure, le gros mot, les pieds dans le plat, mais la couverture par Le Monde de la sortie de la nouvelle Freebox était quand même assez impressionnante.
Ah, donc là on atteint les limites de l'intégrité.
Oui, là, c'était carrément limite. Ouais, j'ai vu ça. Je me suis dit, est-ce que c'est pas un montage de quelqu'un? Maintenant, c'est ce qu'on se dit souvent avant de regarder quelque chose, hein, en ce moment. Mais oui, c'était...
Est-ce que y a un paradoxe, je pense, dans ce domaine-là? On a accès à énormément d'informations et nous tous, on ne sait même plus dire combien d'articles on lit versus combien d'articles on voit passer et on lit simplement la contextualisation ou le titre. Et je pense qu'il y a vraiment une notion de valeur de l'information qui évolue. Si, enfin, c'est très difficile de donner un niveau, enfin, de rater l'information, mais en tout cas, que ce soit au cours des 10 dernières années ou même de la dernière année, je pense que la notion de valeur d'information évolue et aussi pour chacun.
En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on ce soir, on est dans le 7e, vous faites tous des études, vous avez un certain niveau de vie, vous êtes attiré de par votre choix par l'univers médiatique, mais la réalité du monde, en tout cas de la France, c'est, on l'a vu dans les rues il y a quelques temps, c'est qu'on a tendance à moins, on ne va plus dans les kiosques acheter des journaux. On a parlé de la moyenne d'âge de certaines émissions de télévision. Et donc, nous, encore une fois, c'était notre pari. Il ne faut pas laisser tomber, il faut faire l'effort pour Kevin de Toulouse et Sarah de Strasbourg de maintenir la pression, de lui apporter sur un plateau des histoires qui, on est certain, vont les intéresser.
Pour rebondir sur les histoires qui vont les intéresser, enfin, je ne pense pas que les gens veulent absolument des histoires qui les visent eux, mais plutôt dans lesquelles, en fait, ils pourraient être présents, ils pourraient participer, qui viennent de chez eux, mais non pas par égocentrisme, mais tout simplement pour se sentir plus concernés. Et donc, je pense qu'il y a une véritable crise, en fait, de la distanciation qui peut être résolue. On peut très bien faire des choses qui font participer les gens sans que ce soit pour autant versé dans la démagogie où on remplace le journalisme par des micro-trottoirs généralisés. Et là, je pense qu'on est vraiment à un carrefour. Alors, soit on fait participer tout le monde dans un espèce de bazar et finalement, l'article n'a ni queue ni tête, soit on fait vraiment du journalisme, de l'information distancée, tout en même temps en incluant beaucoup plus.
Et quand on parlait de data, hein, on n'est pas rentré dans le détail, mais qu'est-ce que c'est la data
pour... Tu peux rentrer dans le détail. Hein,
pour l'Outsider, je prendrai juste l'exemple de la Syrie. La Syrie, c'est une cause qui nous est chère, Johan, Arnaud, moi-même, et qu'on a lancé l'Outsider, on s'est donné un des objectifs, c'était comment on peut parler de la Syrie. On a fait une première vidéo, j'allais dire classique, sur les camps de réfugiés, 10 000 vues. Personne ne s'intéressait au sujet, on parlait de taux d'engagement vraiment hyper faible. On a fait une deuxième vidéo avec un peu d'infographie pour expliquer les causes du conflit. Pareil, bide, 20 000 vues. Franchement, ça n'intéressait personne. Donc, cette data, hein, ces données qu'on accumule, cette expérience nous dit, bon, il faut arrêter. Ce n'est pas comme ça qu'on doit traiter le sujet. Et un beau jour, en curétant, comme on dit, en trouvant un sujet sur Instagram, on voit, en cherchant sur Instagram, on voit un peintre syrien qui avait la bonne idée de peindre les grands de ce monde sous les traits de migrants syriens. Et donc, Trump, Macron, même Bachar al-Assad. Et cette vidéo a fait 2 millions de vues en une semaine. Et on a réussi à craquer en disant l'iceberg, l'Everest de la Syrie en montrant qu'on pouvait tous un jour être migrants, quelle était la vraie vie d'un migrant, que les grands secondes, quelque part, étaient aussi des humains et pouvaient être demain.
Donc ça, c'était un tweet que vous aviez vu.
C'est un Instagram.
C'est un Instagram. Alors, et vous avez vu tout de suite qu'il marchait bien.
Il nous a plu.
Il vous a plu. D'accord.
Alors, encore une fois, la data nous permet de reproduire des choses qui fonctionnent et d'écarter des choses qui ne fonctionnent pas. On aura toujours besoin d'un Jonathan Nagel et de tous les journalistes avec qui on a la chance de travailler pour aller tirer dans les coins, aller chercher des informations que la data ne peut pas nous fournir, parce qu'encore une fois, la data ne sait que répéter ce qui marche.
Donc c'est de la disruption à travers
la disruption, le choix éditorial, l'angle, le
en changeant de canal, en passant d'un produit Instagram à un produit Facebook.
Alors ça, je vais vous donner un tout petit exemple, hein, mais c'est nous on fait à peu près 200 vidéos par mois et on accumule cette information. Combien de temps les gens regardent, qu'est-ce qui les fait réagir, à quel moment ils commentent, à quel moment ils partagent, à quel moment ils likent. Et ça nous donne
une matière énorme qu'on synthétise, qu'on analyse, qu'on fait vivre pour la production de nos vidéos d'aujourd'hui et de demain. Encore une fois, la data n'écarte pas les journalistes, mais c'est la combinaison de deux qui nous permet de correspondre au mieux avec nos aspirations, encore une fois, qui est celle de à la fin de chaque vidéo, avoir le sentiment qu'on a apporté quelque chose aux gens qui l'ont regardé.
Question ?
Alors, vous avez déjà un peu répondu à ma question avant que je la pose.
Juste au sujet de France Télévisions, vous en déploriez le retard. Et il me semble qu'aujourd'hui, en 2018, pour le digital, France Télévisions était à quelque chose comme 2 millions ou 3 millions de budget et que c'était censé passer à 200 millions en 2022. Donc, je pense que ça arrive. Ils ont juste pris un petit peu de retard.
Ouais. Nous, quand on s'est lancé, hein, avant de se lancer, nous, hein, je racontais la genèse, hein, on était tous dans des grosses boîtes avec beaucoup de moyens, moi chez Orange, puis chez Vivendi, Altice pour Johan, Discovery, et on a tous eu envie de lancer au sein de nos structures ces nouveaux médias en images, des formats courts, texte à l'écran. Et on s'est rendu compte assez vite, on a même essayé de faire des joint ventures entre nos différentes structures pour avancer encore plus vite. On s'est rendu compte très très vite que c'était impossible avec les équipes en place du fait du respect de la ligne éditoriale, du mode de fonctionnement. Plan-plan, c'est peut-être un peu dur, mais en tous les cas, les habitudes de travail qui sont telles que le mot valise, hein, de disrupter ces habitudes était impossible. Et donc, nous, très vite, Vincent Bolloré m'a aidé, hein, mais on a préféré partir et de créer from scratch une structure pour avoir, encore un autre mot, valise, avoir l'agilité de nous permettre de tenter des choses, se planter. On fait des vidéos à 10 000 vues qui ne marchent pas, et bien ça nous apprend à faire ensuite des vidéos à 200 000 ou 300 000.
Alors, il y a plein de questions. On voudrait vous poser une question avant que vous relanciez sur votre propre consommation média. Par exemple, tu n'as pas encore entendu. Comment est-ce que tu consommes ces médias et en quoi tout ce débat correspond à quelque chose ou est-ce qu'on est complètement à côté de la réalité avec nos discussions sur la disruption de l'info ?
Bonjour Arthur, du coup je ne me suis pas encore présenté. On est totalement dans le débat, notamment par rapport à ce que vous disiez. Moi et je pense beaucoup de gens dans la classe, on s'intéresse énormément aux médias et j'ai une grosse consommation média.
Mais de news, d'informations.
De news, oui. Qui, je pense, n'est pas représentatif des Français puisque je suis abonné à plusieurs médias écrits. Je regarde beaucoup d'audiovisuel, mais là presque que sur YouTube et j'utilise Twitter. En complément. Et du coup...
Non, parce que c'est important à un moment donné que vous engagiez dans la discussion. On a l'impression que vous êtes loin de la discussion, ou c'est qu'une impression.
Non, mais je vous pose
parce qu'on a l'impression qu'il y a des professionnels qui sont en train de parler de quelque chose et puis que ça ne correspond pas forcément à ce que vous vivez. Où est-ce que ça correspond à ce que vous vivez ? C'est-à-dire que vous regardez un Loopsider ou vous avez un regard critique en même temps sur ces nouveaux médias ?
Si je devais contredire par rapport à Loopsider,
par exemple,
je pense que les chaînes de télé traditionnelles ont rattrapé leur retard parce que quand on va sur YouTube, la plupart des contenus, c'est des contenus de télévision de rattrapage, que ça soit, bon, je regarde des late shows américains, bon, je les ai un jour après, ou des émissions du service public ou autres, on les a aussi en accès. Et donc, ils ne sont pas si en retard que ça. Peut-être sur l'écriture... De nouveaux formats, mais je pense que ça bouge. On a encore chez France Télé, c'est IRL, qui est une société de production qui produit beaucoup pour les réseaux en dehors.
Donc en fait, les gros se sont mis lentement au diapason.
On voit se côtoyer les nouveaux et les traditionnels. Enfin, du moins, c'est une impression que j'ai.
D'accord. Est-ce que c'est ton point de vue ?
Je sais pas trop, moi j'ai une drôle de manière de consommer les médias et l'information, j'écoute surtout France Inter, France Culture, je lis Mediapart, Le Monde Diplomatique, et puis voilà, je me sers pas de Twitter. Du coup, j'ai tendance à trouver que les JT télé, et même parfois JT de France Inter, c'est lent, c'est pas assez pointu.
Aucune consommation numérique.
Je préfère numérique uniquement pour lire finalement la presse écrite, mais qui se trouve être numérisé.
D'accord.
Donc, non, pas tellement. Et en général, je trouve que les vidéos du type brut ou loupsider, pour moi, c'est un peu lent. J'ai envie que ça aille.
Encore plus vite.
J'ai envie que ça aille plus vite. Ouais, brut, par exemple, ça me. Non, c'est trop lent.
En quoi c'est trop lent? Qu'est-ce qui est trop lent le...
bah, l'image, puis du texte, puis d'avoir. Enfin, je trouve que les. Bah,
nous,
on va pas
oui,
assez loin.
C'est génial ce qu'ils ont fait. Le mérite d'avoir suivi les plages, d'avoir été les premiers.
Non, non, mais
comme le disait Alexandre, c'est des gens de la télé. Hein, donc, c'est des gens de la télé qui reproduisent un modèle de télé. Nous, on est des gens du numérique et on n'est absolument pas dans la même volonté dans le storytelling, notamment.
Moi, je ne connais pas bien le film, mais j'avais pas eu l'occasion via des amis ou ce que je suis. J'ai pas Twitter, hein, mais du coup, je vais y mettre. Peut-être que ça me correspondra plus que brut.
Je sais pas si je suis la cible.
Alors, moi, je touche un petit peu à tout. En fait, il y a quelque chose qui me dérange aujourd'hui dans le monde des médias, c'est que j'ai l'impression qu'il y a en fait, toute cette multiplication de médias, cet art du storytelling, etc., ça, j'ai l'impression que ça renforce encore plus un fossé social qu'il y avait déjà. Cette multiplication de pure players qui sont quand même très accessibles. J'ai l'impression que voilà, ça vraiment ça, il y a un écart qui se creuse entre les classes un peu plus populaires et l'élite. Il y a le journal de l'élite et il y a les pure players des classes plus populaires. J'ai l'impression que ça se creuse un petit peu. C'est pas un reproche que je fais ou quoi, c'est juste un constat.
En gros, l'information gratuite est financée par des moyens publicitaires et plus facile d'accès, mais elle raconte aussi une histoire qui est peut-être moins riche. Que
voilà.
Ceux qui ont les moyens de se
peut-être
payer des abonnements, moins pointu, et que finalement, ça
peut-être plus orienté aussi.
Perdre aussi une partie de la valeur de.
Ouais.
Comment tu réagis à ça, Giuseppe?
Mieux vaut une information moins riche pour une population qui ne désire pas payer que pas d'information du tout. Encore une fois, notre envie, c'est d'apporter un contenu pour une génération qui ne fait plus l'effort. De s'intéresser parce que les messages politiciens ne correspondent plus aux aspirations et qu'il y a un ras-le-bol, qu'il y a un manque de curiosité. Nous notre, on signe Média de curiosité digitale. C'est vraiment cette curiosité qu'on essaie d'instiller. Alors évidemment, à partir du moment où on fait des formats de 90 secondes en images avec un tout petit peu de texte, on est obligé d'aller droit au but et on n'est pas dans les circonvolutions ou tout simplement dans l'analyse approfondie, réservée et tant mieux à d'autres populations qui ont le temps, l'argent et l'envie naturelle d'accéder à ces médias traditionnels.
Clara, ton point de vue assez rapidement parce
que... ouais, alors attention, juste un petit mot, il ne faudrait pas faire non plus ce qu'on appelle communément le mépris de classe et qui consiste à penser que les gens, quand ils n'ont pas des professions intellectuelles, bac plus 5, grande école, ils ont envie de consommer n'importe quoi et juste d'allumer la télé, ça leur suffit. Parce que souvent, c'est absolument pas vrai. Et j'ai souvent vu des gens qui n'étaient pas du tout, qui étaient agriculteurs, qui étaient plein de métiers comme ça, et ils disaient « Ah oui, moi j'adore cette émission sur France Culture ». Et c'était aussi Kevin du 83, Loulou, machin. Et en fait, ça c'est l'apparence. Mais en fait, derrière, chaque individu a son autonomie face à l'information et il ne faut pas perdre de vue ça.
Dernier témoignage d'étudiants, et puis ensuite Frédéric avait un point à partager.
En ce qui concerne la consommation d'informations, je pense que je suis un cas assez critique d'hyperchoix. Enfin, j'ai du mal à vivre l'hyperchoix. C'est-à-dire que j'ai essayé d'utiliser Facebook, Twitter pour faire des curations d'informations en personnalisant mon fil d'actualité, etc. Et j'avais toujours l'impression de passer à côté de quelque chose. Et je pense que c'est un vrai problème qui se pose aujourd'hui avec la multiplication d'offres d'informations. Ce que vous postez régulièrement sur le Mood, ça me fait découvrir plein de médias américains, hein, et donc ça aggrave encore plus mon problème. Et donc j'essaie de trouver des solutions à ça, parce que je n'ai pas envie de passer à côté de choses importantes, et je n'ai pas envie de me renseigner avec une seule source d'information, parce que je sais que c'est important au niveau de la démocratie de les multiplier, et même au niveau de la conscience citoyenne. Juste une dernière chose, aujourd'hui ce matin, je me suis abonné à un truc, j'ai vu une pub sur Facebook qui s'appelle Fresher, et c'est un chatbot d'information.
Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Quelle est l'expérience?
Alors, en gros, on envoie un message à la page. Et cette page, régulièrement, en fonction d'une question qu'elle vous a posée au départ, alors, j'en ai pas encore fait beaucoup d'expérience, clairement.
Mais vous avez envoyer... l'air de connaître, Fletcher.
C'est via Messenger, notamment. C'est un moyen de... C'est un fil d'infos lié à son profil.
D'accord.
Voilà. avec le risque donc de recevoir l'information qui correspond un peu trop à sa personnalité. Donc c'est toujours comment ça me fait penser. Moi j'ai eu la chance de travailler pas mal avec Netflix ces derniers temps, et Netflix a toujours une anecdote sur le fameux algorithme de Netflix. Quand on est fan de polar scandinave, ben on aura l'algorithme de Netflix vous proposera des polars scandinaves. Mais Netflix fera toujours attention à vous proposer du stand-up portugais au milieu, parce que en voyant du stand-up portugais, au moins vous aurez le libre choix de dire moi j'aime le polar scandinave. Il y a aussi du stand-up portugais et j'aime pas le stand-up portugais. Et vous êtes content de revoir ensuite des polars scandinaves.
Frédéric.
Oui, je voulais rebondir sur les pure players versus les marques un peu plus installées. Giuseppe disait tout à l'heure que l'Amérique donne toujours le là, qu'on a de l'avance, etc. On a aussi de l'avance sur la chute. Quand on regarde les chiffres de BuzzFeed, c'est pas très glorieux. Quand on regarde les polémiques, et on y reviendra tout à l'heure, sur les taux de clics plus ou moins réels de Facebook, on a là aussi, en Amérique du Nord, une remise en question du pure player et une résurgence justement des médias un peu plus traditionnels. On parlait du Times tout à l'heure. Je pense à NPR en radio qui fait beaucoup pour le média podcast. Donc, il faut toujours aussi se dire que dans cette période de disruption qu'on vit, tout ne va pas fonctionner. Et j'ai beaucoup aimé, Giuseppe, ton image de la tortue qui va jusqu'à l'océan, tout le monde ne va pas réussir à y aller, y compris les pure players. Donc c'était le point que je voulais partager.
Parce qu'ils sont trop fragiles, j'essaie d'aller plus loin.
Ils sont très fragiles économiquement. Le modèle publicitaire unique, ça ne fonctionne pas. Il y a un mois, John Aperetti, le patron de BuzzFeed, a carrément dit on va tous se planter. Pourquoi est-ce qu'on n'essaye pas de merger Vox, BuzzFeed et tous les autres pure players pour éviter que nos financiers, les capitaux risqueurs, ne prennent pas un énorme bouillon.
Donc c'est BuzzFeed bouillon. Est-ce que ça veut dire que les pure players sont tous aussi fragiles que BuzzFeed?
Je pense que oui. Le donate button dont Giuseppe parlait n'est pas encore partout.
Je te pousse dans tes réponses.
Oui, non, mais ça marche pour le Guardian pour une raison simple, c'est que le Guardian, il y a une fondation derrière qui a des dizaines de millions gagés sur une centaine et quelques d'années. Ce n'est pas le cas de John Aperetti qui a de l'argent qui coûte cher, qui est du capital risque. Je pense que c'est là où il y a eu beaucoup de gens qui se sont excités et qui ont levé de l'argent à risque. Ce n'est pas le cas en France et c'est là où, ça va te faire sourire, le colbertisme français et la frilosité française a du bon de temps en temps, c'est qu'on a fait attention à ne pas dépenser inutilement. Là où il va y avoir, à mon avis, en 2019, quelques cadavres.
Ok. J'ai une question.
Oui, j'aurais aimé connaître votre opinion, en savoir un peu plus sur vous en tant que journaliste. J'aimerais avoir votre réaction à propos de deux choses. Moi, il n'y a pas longtemps, j'ai regardé le rapport de Reporters sans frontières qui racontait en fait quelles étaient les nouvelles violences perpétrées envers les journalistes, notamment liées aux réseaux sociaux, et comment on pouvait décrédibiliser des journalistes en craquant leur compte Twitter, etc., etc. Et il faisait une liste de tout un tas de trucs, voilà. Et la deuxième chose sur laquelle je voulais vite fait que vous réagissiez, c'était les violences perpétrées envers les journalistes pendant les manifestations en France récemment, notamment sur les photojournalistes à qui on a cassé leur matériel.
Alors là, on va parler de violences. Oui, effectivement, il y a énormément de harcèlement sur Twitter et Facebook de journalistes. Dès qu'ils abordent des sujets sensibles, autrefois ils étaient quand même beaucoup plus protégés, et maintenant de toute façon, dès que vous donnez la moindre opinion un peu décalée, vous commencez à vous faire traiter de tous les noms. Et alors quand c'est des sujets plus sensibles, et qu'en fait la journaliste ou la, parce que c'est souvent les femmes qui sont harcelées encore plus avec les insultes que vous pouvez imaginer, sexistes, en fait, il n'y a pas assez de protection. Parce que Twitter, par exemple, là, a été épinglé justement par RSF et par Amnesty International. Et Twitter dit, on est en train d'essayer de trouver des solutions. Et pour l'instant, ils sont tout juste en train de commencer à penser qu'il faut être transparent par rapport aux données liées au harcèlement. Donc, ils sont dans la première phase qui est le non-déni, ce qui est déjà bien. Mais maintenant, il faut aller plus vite parce que les...
En fait, c'est les GAFA, en tout cas les grands opérateurs, que ce soit Facebook ou Twitter, ceux qui distribuent le plus d'informations, qui en fait sont assez irresponsables.
Oui. Et surtout, alors, ce qui est aussi étonnant, je ne sais pas si ça vous pouvez vous en rendre compte, mais moi, dans ma génération, c'est que les journalistes sont harcelés, ou même les personnes, plus largement, toute personne qui débat sur Twitter, on passe très très vite à l'injure, dès qu'il y a un désaccord. Par exemple, là, il y avait une publicité au BAD, en grand, en Galerie Lafayette, avec une paire de fesses. J'ai dit oui, ça peut être vu comme sexiste parce qu'on voit qu'une partie de la femme. Plus d'insultes, j'ai dû enlever mon tweet. On ne peut plus discuter en disant oui, mais non, mais c'est une pub pour ceci. On peut plus.
Donc c'est la fin du débat dans des endroits où on aurait dû vivre du
là,
débat.
On peut dire bah non, il ne faut pas censurer, c'est ouais. Juste normal, c'est une pub pour la lingerie. On peut essayer de mesurer, oui, mais d'accord, mais en plus petit. Et en fait, bah non, les gens sont.
Donc les plateformes en fait, antagonisent.
Les plateformes antagonisent des gens qui au départ n'étaient pas. Pour ainsi dire, des candidats à l'insulte. Donc ça, c'est assez grave.
Parce qu'il y a la violence verbale qui précède souvent la violence physique quand les gens se retrouvent physiquement dans des manifestations.
Parce qu'en fait, les gens n'arrivent plus à s'exprimer. Et dans les manifestations, alors là, c'est assez inédit ce qui s'est passé avec les gilets jaunes, puisqu'on a vu des gilets jaunes, certains gilets jaunes s'en prendre violemment à des journalistes et certains policiers en faire autant. Donc en fait, les journalistes ont une double ration. Ça, c'est assez inédit quand même dans les manifestations.
Alors, j'ai aussi vu dans les directs que j'ai vus, sur, soit dans différents groupes, soit sur les différents médias directs, des gens qui félicitaient ces médias-là en les comparant aux chaînes d'infos. Oui. Disant, ah, mais vous, au moins, on voit ce qui se passe et ce n'est pas manipulé. Est-ce que ce n'est pas, en fait, la complexité de ce moment?
Oui, c'est très complexe parce qu'avec certains gilets jaunes, on commence à dire qu'on est journaliste, ils s'énervent et on arrive à calmer le jeu, à discuter. Et d'autres, en fait, c'est très complexe parce qu'on ne peut pas faire de généralité avec les gilets jaunes, étant donné que c'est un mouvement qui ressemble en fait à la vie telle qu'elle est sur Facebook. Chacun peut s'inscrire sur Facebook et chacun peut enfiler un gilet et aller dans la rue. Donc on a cette complexité-là, on ne peut pas dire non plus les gilets jaunes attaquent les journalistes.
Certains gilets jaunes ont attaqué certains journalistes. Giuseppe, qui est au cœur de tout ça, vous avez décidé de faire du direct en ayant conscience de ça?
On a toujours l'habitude de dire que le numérique, c'est juste un résumé de la vraie vie. On a tous des copains, profs, médecins qui se font insulter aujourd'hui, alors qu'avant, leur statut était assez sacralisé. Et c'est la même chose aujourd'hui pour les journalistes. On a choisi de faire des lives et de suivre, alors que c'est absolument pas au départ notre volonté, notre ligne éditoriale de faire de la politique, les gilets jaunes, nous on a essayé de le prendre par l'angle sociétal. Et un peu contraint, mais on est arrivé à un moment, il y a une dizaine, quinzaine de jours, qu'on pouvait poster ce qu'on voulait, n'importe quelle histoire magnifique. Il y avait une espèce de volonté, ou absence de volonté, il y avait un côté presque de réflexe des Français de ne vouloir que du gilet jaune. Donc, on est allé dans cette voie en essayant de trouver des angles différents. On n'a pas forcément, ça n'a pas forcément fonctionné parce qu'il y avait des côtés aussi quand même irrationnels. Et vous l'avez tous vécu. Le direct, hein, les plateformes ont quand même, parce que je crois que c'était vous qui disiez tout à l'heure, c'est médias. Pour nous, c'est pas des médias, c'est des outils, c'est des moyens de distribuer de l'information dont ils ne sont pas éditeurs. Nous, on a ces lignes éditoriales, ces convictions, ces volontés, et on utilise ces outils, ces plateformes. Alors, leur irresponsabilité est plus liée à la masse de contenu et leur priorité bien marquée à tout ce qui rapporte, à leur modèle publicitaire, et tout le reste passe un peu derrière. Et juste pour répondre à ta question, Alexandre, le direct, c'est un bon moyen aussi d'interagir avec le public, c'est un bon moyen aussi d'être là où tout le monde nous attend, mais ce n'est pas forcément en termes de storytelling, en termes d'angle, l'idéal pour nous, et ce n'est pas forcément là où on arrivera à trouver notre terrain de jeu le plus aisé.
Pour vous pousser dans vos retranchements, est-ce que finalement le grand vainqueur, c'est les fake news en 2018 contre à la fois les news traditionnelles et même toutes les nouvelles façons de faire de l'info qui ont été maîtrisées par des professionnels nouveaux comme Looksider ou Brut.
En tout cas, je ne l'ai pas mentionné.
C'est un peu la conclusion, mais c'est aussi pour dire que finalement, c'est un peu un combat inégal.
En tous les cas, nous, on s'est lancé aussi parce qu'on savait qu'il y avait quelque chose à faire, on y croyait. Et c'était aussi pour prendre la place, en tous les cas, pas prendre la place, mais pour occuper le terrain et pas laisser le terrain un peu trop présent pour Sputnik, RT News, les Chinois, les Qataris.
RT News, regardez, oui, mais l'audience, Plus. Oui, mais l'audience de RT News a augmenté, paraît-il, de 80% grâce aux Gilets jaunes.
Complètement, avec un discours assez populiste, mais simplement LG+, je ne sais pas, ouais. Frédéric peut en parler, LG+ aux États-Unis, un discours assez mainstream, une rédaction pléthorique, des sujets bien traités, vraiment un modèle pour nous. La version française d'LG+, clairement un agenda politique, très...
Algebras, pour ce qui s'appelle, c'est Algebras.
Algebras, c'est un spin-off d'Algebras, avec un agenda donc politique, mais vraiment l'envie de
mettre le feu,
dans les banlieues, de pointer du doigt ce que fait Israël, et clairement, il était, d'une manière sans doute immodeste, arrogante, mais c'était aussi notre rêve de vieux quinca blancs voulant passer le relais à une rédaction où les gens ont en moyenne 24 ans, ils sont plutôt issus de l'immigration, de se positionner en disant mais on peut pas tout dire, et il y a encore des belles histoires à raconter, des mauvaises histoires à raconter, mais en tous les cas, on veut faire de ces histoires des choses inspirantes et donner envie d'avancer.
Donc, en conclusion, vous avez gagné contre les fake news ou pas ?
Non, c'est pas forcément dans ces termes-là que je le dirais. En tous les cas, on n'a pas envie de renoncer, se battre.
Vous êtes quand même plus puissant que Edi+, plus puissant que RTP.
Ouais, voilà, complètement.
Vous êtes plus puissant en termes de...
Et surtout, j'y reviens parce que c'est essentiel, on n'en parle pas assez, en termes d'engagement, de taux d'engagement. Et on peut regarder BFM qui poste... 80 vidéos par jour et qui a un taux d'engagement.
Quel est le classement ? C'est
zéro.
C'est Loopsider qui a le plus fort taux d'engagement ?
Très loin devant.
Sur Facebook ?
Sur Facebook, sur Insta.
Sur Insta, sur Snap ?
Snap, les données de Snap, ils ont encore beaucoup de travail à faire. Mais on pense,
donc on peut dire que vous avez gagné contre.
On a gagné
des fake news et des vieux médias.
Nous tester, c'est nous adopter.
Oh, ok. Clara, pour conclure aussi, est-ce que c'est pas le fake news le grand vainqueur
Non, parce que le fake vainqueur, il faudrait une autonomie, il faudrait un projet pour être vainqueur, et là, les fake news, c'est tout et n'importe quoi, c'est une sorte de chaos, en fait. Donc, dès qu'il y a des initiatives comme Loopsider, comme même les médias de services publics qui se mettent à faire de nouveaux formats, c'est eux les vainqueurs, il n'y a aucun doute.
D'accord. Donc, ce sera la conclusion. Les fake news n'ont pas gagné, et donc le combat continue en 2019. Le combat continue. Merci beaucoup.